Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Sainte Trinité, comme chaque année, il est assez redoutable pour le prédicateur, et donc pour ses ouailles, qui doivent subir un sermon plus ou moins bien ficelé, de parler du mystère d'entre les mystères, qui est ce mystère du Dieu trois fois saint. Cette équation qui est totalement insoluble par la simple raison, 1 égale 3, et sur laquelle s'acharnent les opposants depuis deux millénaires, et dont essayent de se sortir tant bien que mal les chrétiens depuis deux millénaires également. Et nous pourrions avoir la tentation de se dire que la Trinité est un mystère tellement redoutable, quelque chose qui dépasse tellement notre raison, qu'après tout, dans la vie quotidienne, on ne voit pas très bien quel est l'impact, on ne voit pas très bien quel est l'intérêt de fouiller ce mystère. On accepte cette donnée que Dieu est à la fois un et trine, parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'a révélé, par la bouche de son Fils. On accepte de considérer qu'un jour, la gloire consistera dans un face-à-face avec chacune de ces trois personnes, mais pour l'heure, on se dit que peut-être qu'on a d'autres chats à fouetter. Or, je voudrais attirer votre attention, si vous avez cette tentation de vous dire que la Trinité, vous y adhérez, quant à la scruter, c'est hors de question, avec une fausse humilité que nous savons bien déployer régulièrement, qui cache mal notre paresse, je voudrais simplement vous rappeler la phrase du Seigneur Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Il demande à ses apôtres, avant de monter aux cieux, il demande, ou plutôt c'est le jour de la résurrection, qu'il leur dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Alors la traduction en français ici n'est pas correcte, c'est tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai transmis. En réalité, dans le texte grec. Et il faut donc, pour pouvoir avoir le salut, être baptisé au nom de la Trinité Sainte, mais également mettre en pratique, très concrètement, ou songer à ce que le Seigneur Jésus nous a transmis. Et quel est l'enseignement fondamental du Seigneur Jésus ? Des petites leçons de morale ? Un programme politique ? Ou je ne sais quel commandement un peu aléatoire ? Non, le Seigneur Jésus nous a parlé d'une seule chose, la révélation de la très sainte Trinité. Autrement dit, ce qui doit focaliser notre vie chrétienne, c'est précisément l'examen, la contemplation, le fait de scruter les trois personnes de la Sainte Trinité qui sont unies en une même divinité. Nous ne pouvons donc pas faire l'économie, parce que c'est le Seigneur qui nous en donne l'ordre, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une étude de la Sainte Trinité. Alors, je vous pose très simplement cette question. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, combien de temps par jour passez-vous à scruter ce mystère de la Trinité Sainte ? Jésus, c'est une personne que nous fréquentons plus ou moins assidûment, mais qui nous est accessible parce qu'il est venu dans la chair. C'est le Fils éternel venu dans la chair. Soit. Nous avons son crucifix devant les yeux, nous avons l'icône de son visage, le Saint-Suaire, très bien. Et nous avons sa parole, il est, si j'ose dire, en chair et en os, dans l'Évangile. Le Saint-Esprit, cette colombe un peu étrange que j'ai essayé de scruter avec vous, plus ou moins adroitement, parce que c'est un peu compliqué, et la fatigue n'aidait pas à cela, ni pour vous ni pour moi, pour scruter un peu cette personne de l'Esprit-Saint. Parce que entre Pâques et la Pentecôte, c'est bien de lui qu'il s'agit, essentiellement. On a repris les discours de Jésus après la scène, qui annonce la venue de l'Esprit paraclet. Je voudrais aujourd'hui, avec vous, pour obéir au Seigneur Jésus qui nous demande de scruter le mystère de la Trinité, réfléchir quelques instants sur la personne du Père éternel. Parce qu'il faut bien avouer que nous avons de la difficulté à envisager qui est le Père éternel. Or, il nous faut scruter la Trinité tout entière, Père compris. Le Père éternel a cette délicatesse de ne pas se révéler d'emblée. Vous savez bien que Adam et Ève ont eu un problème d'orgueil, un problème de manque de confiance, un problème de défiance à l'égard de qui ? À l'égard de leur Père, à l'égard de Dieu le Père, considéré comme créateur. Il est donc normal qu'au fil des millénaires, la relation que les hommes ont à l'égard de Dieu, et singulièrement de Dieu le Père, soit assez difficile. Et le Père a cette délicatesse de ne se dévoiler que très progressivement. Il le fait à travers les religions païennes, parce que un panthéon, lorsque le système est polythéiste, comme souvent dans les religions païennes, peut toujours se résoudre, vous le savez, à un dieu des dieux ou un père des dieux. Il y a donc une intuition dans les religions païennes à déceler une personne du Père. Ce n'est pas encore le Père de la Trinité, bien sûr, tel que Jésus nous l'annonce, mais il y a déjà cette intuition. Il y a dans les systèmes philosophiques de l'Antiquité, grecs et latins notamment, il y a cette intuition également, petit à petit, pour nous ça nous paraît évident, mais il a fallu du temps pour résoudre le problème de l'origine du monde, les systèmes païens, juifs, grecs et latins, encore une fois, ont permis d'accéder à l'existence d'un premier moteur, non mu, d'une première cause de toute chose, unique. On cherchait quel était le fondement de la réalité, et il était très compliqué pour les hommes d'accéder à l'unicité. Or, grâce au progrès de la philosophie, donc à la lumière de la raison naturelle, on y est parvenu progressivement. Voyez donc que le Père éternel permet déjà qu'on accède à lui d'une manière très imparfaite, et par les religions naturelles, et par la philosophie. Mais tout cela est encore tout à fait insuffisant. Songez à ce renouveau de philosophie païenne, ce néopaganisme, si l'on veut, de la fin du XVIIIe siècle, où les philosophes des Lumières parlaient du grand architecte. Quelle relation peut-on avoir avec ce grand architecte qui jette la chiquenaude initiale, mettant tout en branle d'une très belle harmonie, mais n'ayant qu'indifférence pour sa création ? Vous voyez qu'avec ce genre de Dieu-là, il ne fait pas bon vivre, et il ne fait pas bon parler. On comprend très bien que l'étape d'après a été de se débarrasser de la divinité elle-même. J'en reviens donc à la paternité, à Dieu le Père. Dieu le Père a estimé bon de se dévoiler progressivement par sa révélation surnaturelle, parce que ce que découvrait l'intelligence du mystère du Père n'était pas suffisant. Il l'a fait d'abord dans l'Ancienne Alliance. Qu'a-t-il révélé dans l'Ancienne Alliance ? Je suis celui qui suis, je suis une personne et je suis le Père du peuple. C'est ce qu'il dit au buisson ardent à Moïse, vous le connaissez parfaitement. J'ai entendu la souffrance de mon peuple et j'ai eu pitié de lui. Et voici que je t'envoie, toi Moïse, pour aller prendre la tête de mon peuple, comme pasteur, comme lieutenant de ce que je suis. Qu'est-ce que je suis, Moïse ? C'est ce que dit Dieu à Moïse, je suis le Père du peuple. Voilà donc la grande nouveauté de l'Ancienne Alliance. Dieu n'est pas cette espèce de principe premier seulement, qui se tient très loin de la créature. Il est ce Père aimant d'un peuple, il est un berger, et dans l'Ancien Testament, on le décrit à la fois comme ayant en lui des dispositions, des sentiments paternels et maternels à la fois, pour montrer que c'est un Père très doux. Mais tout cela est encore très insuffisant. Le dévoilement du Père dans l'Ancienne Alliance est déjà un progrès, mais ça n'est pas encore ce qu'il faut pour dévoiler la plénitude de la paternité de cette première personne de la Trinité. Pourquoi ? Parce que les Juifs en restent encore à une relation de crainte servile à l'égard de ce Père. C'est celui qu'on n'ose pas nommer, c'est celui vers lequel on n'ose pas lever les yeux, c'est celui que l'on sert, mais que l'on ose, avec lequel on ose vraiment s'entretenir face à face. Il faut la venue de Jésus pour qu'enfin le carcan éclate et que la figure du Père puisse se dévoiler à nous avec toute sa bonté, avec toute sa miséricorde, nous le savons. Comment Jésus nous dévoile-t-il le Père ? Comment nous rend-il le Père accessible ? Bien, c'est très simple. Il le dit à Philippe. Saint Philippe, à la fin de la vie publique, demande à Jésus, parce que Jésus, depuis 3 ans, leur annonce qu'il va leur montrer le Père. Eh bien, Philippe lui dit « Montre-nous le Père ». Ça commence à bien faire, cela nous suffit. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. C'est assez amusant d'entendre Philippe dans toute le brut de décoffrage de l'Évangile, si l'on veut bien enlever tout ce qu'on ajoute d'habitude, de très convenable et de très embourgeoisé. Prenons la formule telle qu'elle a dû sortir de la bouche de Philippe. Écoute Jésus, ça commence à bien faire. Ça fait 3 ans que tu nous parles du Père, tu vas nous le montrer. Et Jésus lui répond, navré, mais Philippe, t'as donc rien compris. Ça. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as toujours pas compris. Qui m'a vu, qui me voit, voit le Père. Jésus est l'icône du Père. Dans son humanité créée, mais parfaite, Jésus reflète quelque chose du mystère du Père, autant que le corps peut le refléter, autant que l'âme humaine créée de Jésus peut le refléter, qui sont limités, corps et âme de Jésus, humains, sont limités, mais éclate en lui quelque chose du Père. Dans ses mœurs, dans ses manières, dans sa délicatesse, dans le jusqu'au boutisme de son amour qui va jusqu'à la mort en croix en pardonnant à ses bourreaux, il manifeste quelque chose de la paternité de la première personne de la Trinité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Jésus n'en reste pas là. Il nous permet de devenir à notre tour les fils adoptifs du Père. Vous voyez que Jésus à la fois nous dévoile qui est le Père, pas tant par ses discours que par son propre comportement, en tant qu'il porte le reflet du Père, qu'il est l'icône du Père, le Fils parfait, mais également il nous permet d'entrer dans l'intimité du Père très concrètement, matériellement, j'allais dire ontologiquement, en faisant de nous très réellement des fils adoptifs. Il ne se contente pas de dire « Regardez comment est le Père éternel, regardez c'est moi qui suis le Fils éternel, je vais vous montrer quelque chose, il suffit qu'éclate en moi quelque chose de la paternité. » Non, il nous dit « Voulez-vous, à votre tour, être les fils du Père ?» C'est la seule manière pour vous de connaître vraiment qui est mon Père. Je pourrais toujours vous faire tous les discours les plus parfaits, vous laisser une synthèse théologique absolument incandescente, vous ne pénétrerez pas le mystère du Père tant que vous ne serez pas devenus ses fils adoptifs. C'est ça la nouveauté de la nouvelle alliance, c'est ça la révolution qui advient avec le Christ. Nous pouvons vraiment connaître le Père éternel parce que nous devenons à notre tour les enfants adoptifs. Et comment ? Évidemment par la vie des sacrements. C'est en quelque sorte cette procession éternelle du Fils qui vient du Père, qui se poursuit dans l'Eucharistie. L'incarnation, c'est, il y a de toute éternité, le Fils qui procède du Père. Ceci est éternel depuis toujours, mais à un moment donné de l'histoire, enfin à un moment donné apparaît l'histoire, et ce Fils éternel ne se contente pas de procéder éternellement du Père en restant tout autre. Il veut entrer en contact avec la création. Il s'incarne. C'est une continuation de sa procession éternelle. Mais il n'en reste pas là. Il se manifeste à nous et c'est déjà très beau. Il veut nous faire entrer dans la danse. Alors que fait-il ? Eh bien, cette procession éternelle qui se poursuit dans l'incarnation, se poursuit dans l'incarnation dans l'hostie, pour que nous puissions consommer cette hostie. Et alors que la procession éternelle du Fils, qui se poursuit dans l'incarnation, qui se poursuit lorsque Jésus vient dans l'impanation, on dit dans le pain, dans les espèces eucharistiques, continue dans notre âme. Et alors, nous sommes, si vous voulez, en quelque sorte, Jésus est enfanté en nous, ou le Verbe éternel est enfanté en nous. Voyez-vous, l'un des motifs éminents de l'incarnation, c'est cela. Que le Verbe éternel puisse continuer sa procession, son âme, qu'il soit engendré, non plus à l'extérieur de nous, mais en nous-mêmes. Et évidemment, par un mouvement de ressac, comme la marée qui va et qui vient, eh bien nous sommes emportés, une fois que le Fils a été, si vous voulez, engendré en nous, incarné en nous, eh bien, il appelle un retour vers le Père. C'est ce qui se passe par la vie sacramentelle. Voyez donc que sur un mode très simple, et dont nous ne suspectons pas grand-chose, même quand nous avons la foi, la vie sacramentelle ne nous excite pas vraiment. Voyez pourtant la beauté de ce qui s'y passe. Nous sommes vraiment introduits dans la vie trinitaire, la procession du Fils vient s'accomplir en nous, se poursuivre en nous, pour que nous puissions retourner au Père. Et alors, nous connaissons le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a même plus besoin de parler, c'est physiquement que les choses se passent. Voilà ce que je voulais vous dire en cette belle fête de la Trinité. J'espère que tout cela n'est pas trop éthéré et pas trop au-delà de ce que vous attendiez. Demandez évidemment au Saint-Esprit, mais demandons à la Trinité tout entière de bien vouloir nous faire entrer plus avant chaque jour qu'elle nous concède cette vie sur terre, qu'elle nous fasse entrer plus avant dans cette intimité. Car si ce n'est pas cet objectif que nous nous fixons en tant que chrétiens, alors nous n'avons pas à être chrétiens. Il ne sert de rien d'avoir reçu le baptême, d'avoir à notre disposition les sacrements et la révélation, si ce n'est pour entrer dans cette intimité trinitaire. Nous ne sommes pas là pour jouer à la communauté chrétienne, restaurer une quelconque chrétienté, toute chose importante par ailleurs, ou enseigner la morale chrétienne, que sais-je, si ce n'est pour entrer d'abord dans la présence des trois. Et c'est quelque chose qui n'adviendra pas après notre départ de la terre, c'est ce qui est très beau, c'est dès aujourd'hui que les trois viennent en nous et continuent ces relations éternelles qu'elles entretiennent pour notre plus grand bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.